Bonsoir, ça y est, c'est fait. Le président Félix Tshisekedi a depuis dimanche dernier atteint la barre symbolique de 100 jours depuis qu'il est président de la République démocratique du Congo. Le bilan est satisfaisant pour certains, décevant pour d'autres. Dans un instant, l'analyse de nos invités du jour. Ebola, encore et toujours elle. Elle sévit au nord Kivu et à Ituri depuis plus de 8 mois. Elle vient de franchir le cap de 1000 morts il y a quelques jours. Les équipes de riposte qui avaient observé un petit temps d'arrêt de travail viennent de reprendre du service. Et pour évoquer ces actualités, nous serons avec Dexon Assani, journaliste indépendant et directeur de la Voice of Maniema émettant depuis Kindu dans la province du Maniema. Dexon Assani, bonsoir.
Bonsoir Donat, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi et aux collègues qui sont avec vous.
Freddy Tshiyoyo justement, bonsoir Freddy Tshiyoyo.
Bonsoir cher Donat Madimba, je suis très heureux d'être encore invité ici dans ce beau studio de Radio Capi depuis plus ou moins une année.
Un bonheur,
un
bonheur partagé de te retrouver Freddy, rédacteur en chef à la télévision RTVS 1, mais aussi correspondant de la télévision Africa News. Et enfin Yves Bouya, journaliste rédacteur sur le site d'information CNews. Yves Bouya, bonsoir.
Bonsoir Madimba et merci de l'invitation et bonsoir aux nombreux auditeurs de la radio Capi.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Merci.
Et pour alimenter nos échanges de tout à l'heure, voici la revue de presse.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par les bilans des 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi, investi le 24 janvier 2019. 100 jours après, l'heure est au bilan. Si les avis sont partagés, l'on reconnaît néanmoins que les premiers pas du président Félix Tshisekedi sont prometteurs, nonobstant l'omniprésence de Joseph Kabila sur la scène politique congolaise constate le potentiel. Pour le phare, en 100 jours de Félix Tshisekedi, les lignes bougent en RDC. Le nouveau président de la République a donné des signaux incontestables du changement de gouvernance au sommet de l'État. Le quotidien cite la fermeture des cachots des services spéciaux, rendant libres des centaines de citoyens arrêtés pour des motifs divers, les plus souvent futiles. L'interdiction des sorties des fonds au niveau des ministères, entreprises et services publics, sauf pour ceux liés aux charges sociales, la libération des prisonniers politiques et d'opinion, la transformation de la RDC en chantier avec des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures. Ce qui fait dire à Forum des As qu'en son jour, Félix Tshisekedi a réussi son décollage. De son côté, le média en ligne 4e pouvoir.cd qui revient sur l'interview de Martin Fayoulou rapporte qu'en son jour, le pays est sans premier ministre, sans gouvernement. Ceci confirme que Félix Tshisekedi n'a aucun pouvoir, conclut Martin Fayoulou dans les propos sont repris par le site web. Parlons santé à présent. Déclaré le 1er août 2018 au Nord Kivu et en Ituri, la maladie à virus Ebola a franchi le cap des 1000 morts le 3 mai dernier. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a annoncé que c'est la deuxième épidémie la plus grave dans l'histoire de ce virus. Peut-on lire sur www.radiookapi.net. Ebola, la barre des 1000 décès franchie, rapporte Mediacongo.net. Ce site d'information explique que 9 mois se sont écoulés depuis le déclenchement de la 10e épidémie d'Ebola déclarée dans l'est de la RDC, principalement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les nouveaux cas et décès ne cessent d'augmenter chaque jour, tandis que le taux des personnes guéries reste bas. Selon les équipes de la riposte contre cette épidémie, les résistances des communautés sont les principales causes de la persistance de la maladie. La réapparition des Nansemi qui s'était évadé de la prison de Makala le 17 mai 2017. La remise et reprise entre les anciens et nouveaux gouverneurs sont également des sujets qui ont été largement commentés par les médias cette semaine.
Merci Kéline Kouté. Dexon Assani, journaliste indépendant et directeur de la Voice of Maniema, radio émettant depuis Kindu dans la province du Maniema. Dexon, à part nos deux sujets prévus ce soir, également évoqués dans la revue de presse que nous venons d'écouter, avez-vous un sujet que vous aimeriez nous partager en avant-goût?
Merci beaucoup Donat Madimba, merci une fois de plus aux auditeurs de cette grande chaîne onusienne. Je voudrais revenir sur un sujet chez moi au Maniema, bien qu'en état à Kinshasa aujourd'hui, sur la révocation de quelques personnes, en fait, de quelques agents au niveau du gouvernorat de la province du Maniema. Ils en sont au total 21 personnes qui ont été révoquées par les gouverneurs ad intérim. Jusqu'à là, les motifs ne sont pas encore mis à la place publique, mais les voix s'élèvent de gauche à droite pour dénoncer ces révocations que certaines personnes sont en train de qualifier d'illégales, d'autant plus que les gouverneurs ad intérim n'ont jamais été notifiés par le ministère de l'Intérieur. Et à un moment, ça frustre ceux qui ont été révoqués. Bien entendu, hein, ces derniers ont été aussi omis sur la liste des payes hein, pour les mois d'avril. Voilà ce que j'avais à partager.
Merci, Dexon Assani. Freddy Chiyoyo, rédacteur en chef à la télévision RTVS 1 et correspondant de la télévision Africa News, votre commentaire libre.
Je salue l'avènement à la tête de la Chambre du Parlement d'une femme, Jeanne Mabunda, une femme brave qu'on appelle Dame de Fer, avec sa maîtrise du travail. On était habitué, lorsqu'on programmait une plénière à 12 heures, généralement on commençait à 15 heures, 16 heures, mais sa première plénière inaugurale de la session ordinaire de mars, elle a surpris tout le monde. Il y a des députés qui sont venus 2 heures après, pendant que la plénière s'est clôturée. Donc ça, c'est une nouveauté qu'il faudrait inculquer dans le chef de nos législateurs, nos députés, que lorsqu'on met la plénière à 10 heures, soit à 10 heures. Vous n'êtes pas à pied, messieurs. On vous a élu pour travailler, pour aller légiférer, contrôler. Soyez là à l'heure. Parce que nos députés du mandat passé nous avaient habitués une plénière prévue à 13 heures et il s'est pris à 15 heures, 16 heures. Et là, Mabunda a rompu avec les vieilles habitudes de sous mandat Minako et compagnie. Et aujourd'hui, Minako impulse un nouveau rythme dans le chef de nos collègues, de nos frères députés, nos mandataires. Et je suis content que ce jour-là, il est arrivé à 13h27 et vu l'ordre du jour qu'il n'y a pas assez de matière, on a fini dans moins d'une heure. Non, l'émotion émotive des députés, quand il y a des cas à la caméra, les gens veulent un peu se mettre en vedette, se faire voir, voilà, j'ai parlé, même sans rien dire. Voyez un peu. Mais en tout cas, je salue l'avènement de cette dame qui apporte du tonus au niveau de la République.
Mais est-ce que la célérité applaudit ici? Vous n'êtes pas le seul. Hein. J'ai constaté les mêmes satisfactions dans les commentaires de nombreuses presses. Est-ce que cette célérité n'est pas due justement au fait qu'il n'y avait pas grand-chose comme ordre du jour ce jour-là?
Mon cher, il faut saluer d'abord l'acte. L'action, c'est quoi? On a pris le pénière à 13h et arrivé à 13h27. Et puis, il était prêt pour être à la 13h juste. Mais puisque la tradition voudrait qu'il y ait d'abord le quorum au niveau de l'Assemblée avant de faire son entrée. Mais c'est d'abord un geste courageux qu'il faut saluer aujourd'hui. Par rapport à la célérité, vu l'ordre du jour, c'est normal. Mais si pas deux mois après demain, là nous sommes en train de constituer les groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée, les députés affichent leur posture, qui veut être de G7, MSE, qui veut être AAOPPRD, et on constitue le groupe parlementaire après le conseil permanent, donc ce n'est que normal, mais au moins il faut apprécier,
encourager déjà
ce genre de signal de départ.
Ce signal, voilà. Merci Freddy Chiyoyo. Yves Bouya, journaliste rédacteur sur le site d'information CNews, votre avant-goût informationnel.
Écoutez, moi, je vais plus m'apesantir sur la réapparition brusque de Monsieur Némon Antsemi,
de l'ancien député Némon Antsemi.
Vous voyez, dans toutes mes interventions, dans différents médias, j'étais au fait le premier à dire que la place de Némon Antsemi se trouve d'abord à la prison, avant qu'il ne puisse bénéficier de toute autre mesure ou grâce. Donc aujourd'hui, je suis parfaitement content avec la position prise par le gouvernement via les ministres de l'Intérieur, Basile Olongo, qui a dit que les présidents illégalistes, il y avait des mesures de grâce qui ont été données à certains députés, notamment Firmin Yangambi, Franck Diongo, au moment où le député honoraire Mandanda Ntsimi était en cavale. Donc aujourd'hui, il est vraiment à la recherche, il est recherché par le gouvernement et pour qu'il puisse vraiment retourner en prison. Donc c'est pour dire quoi? D'abord, il faut applaudir les faits, il faut applaudir, encourager la position prise par le gouvernement. Nemanja Ntsimi est un évadé. Avant qu'il ne puisse s'offrir l'exhibition qu'il a démontré auprès du bureau du responsable du CNSA.
Mais il y avait, toute la presse du pays.
Non, d'abord la procédure c'est quoi? Nous considérons Nemanja Ntsimi comme étant évadé. C'est un évadé. Un évadé, quand il s'affiche, quand il réapparaît publiquement, il doit d'abord être remis en tôle, en attendant de bénéficier des mesures, en attendant que son affaire soit fixée.
Merci, vous l'avez
alors,
dit.
Alors là, j'applaudis la mesure du gouvernement, mais ce n'est pas Nemanja Ntsimi, doit d'abord retourner en prison et voir les restes de ceux qui s'en suivront.
La procédure. Merci Yves Bouya. Ceci nous amène à commencer notre premier sujet du soir, 24 janvier 2019, 5 mai 2019. Cela fait 100 jours depuis que Félix Tshisekedi a été investi président de la République démocratique du Congo. Le bilan est satisfaisant pour certains et c'est notamment le cas de Laurent Batumona, coordonnateur national des forces politiques alliées de l'UDPS. Écoutons son bilan.
Il y a d'abord le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, les manifestations publiques sont autorisées. Les réunions publiques se tiennent, les marches se tiennent, et qui a enchaîné à la libération des prisonniers politiques. Et maintenant, le président Moïse Katumbi peut revenir sans problème. Sur le plan social, il faut noter le lancement des travaux de réparation des routes. Les travaux s'exécutent à travers toute la République et que la population est contente par rapport à ça. Vous avez noté qu'il y avait des tensions dans plusieurs entreprises publiques, notamment l'ONATRA, la SONAS, aujourd'hui la DGI. À son niveau, il est en train de pouvoir tempérer pour que la tension sociale dans les entreprises puisse revenir à la normale. Sur les plans politiques, rendez-vous compte que les mariages FCC Cash commencent à revenir sur des bons termes. Je crois que l'opposition doit faire son travail. Nous sommes en train de noter qu'il faut ouvrir, organiser un meeting, c'est une bonne chose. Et ça signifie que la démocratie est en marche.
Bilan totalement insignifiant pour le professeur Jacques Joly, député national et inspecteur général du MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, un parti membre de la coalition Lamuka, qui lui regrette l'absence du gouvernement depuis plus de 3 mois maintenant. On l'écoute.
Un terme de symbolique, un terme liturgique, un terme de rite, il y a certains actes qu'il faut apprécier. Mais nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est vrai que le chef de l'État jouit du suffrage, pour autant que ça se fasse correctement, du peuple. Et la mise en œuvre, l'action de l'État, c'est par un gouvernement qui conduit la politique de la République. Le président de la République ne conduit pas l'action du gouvernement. Il faut se mettre aujourd'hui à l'évidence que 3 mois après, sur le plan institutionnel, nous sommes au point zéro. C'est le gouvernement qui détermine la politique, en concertation bien sûr avec le président de la République. Et là, nous n'avons pas de gouvernement. Et sur le plan économique, si vous voyez les résultats que publie la Banque centrale, nous sommes dans une forme de gouvernance incertaine, voire confuse, avec des sorties de fonds qui n'obéissent pas à l'orthodoxie financière.
Dexon Assani, journaliste indépendant et directeur de Voice of Maniema, émettant depuis Kindu, dans la province du Maniema, votre bilan à vous de l'action du président Félix Tshisekedi 100 jours après.
Voilà. Je crois que pour moi, il y a des choses qu'il faut encourager pour les 100 jours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays, mais aussi il y a des choses qui ne doivent pas continuer. Je pars sur le plan technique, donc les différents aspects, notamment les lancements de quelques projets, effectivement, dans certains coins du pays. Il y a aussi, comme disait tantôt l'autre monsieur Guilly Depes, il y a quand même les manifestations publiques qui se tiennent. Il y a eu la libération de certains médias, voire même de certaines personnalités politiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir même à la RTNC, il y a des manifestations de Lamouka qui sont en train d'être diffusées. Donc, en quelque sorte, moi, je trouve qu'il y a des avancées sur ces plans-là. Mais néanmoins, sur le plan administratif, je dirais qu'il y a, des « ça ne va pas ». Parce que quand le président réalise 100 jours et il ne veut pas nommer un premier ministre qui va devoir travailler et mettre en pratique son plan d'action, en ce moment-là, on trouve qu'il y a des sérieux problèmes. Certainement, on peut dire que c'est Kabila qui est en train de bloquer, c'est elle qui bloque. Mais moi, j'ai dit personnellement, c'est pas Kabila qui bloque la machine, d'autant plus que selon les sources en notre possession, Kabila aurait déjà proposé quelques noms au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais qu'a-t-il attendu pendant tout ce temps? Il ne veut même pas nommer un premier ministre et pourtant il avait déjà quelques noms en sa possession. Donc, à mon avis, je suis en train de voir qu'il y a aussi à boire et à manger derrière la position du chef de l'État, Félix, qui ne veut pas nommer, pourtant il avait déjà quelques noms. Dans les cas, par exemple, de la de ces partenariats ou de ces mariages entre FCC et CACH, on ne peut que consommer c'est que l'autre parti ou l'autre partenaire propose. Il n'est pas dit qu'on doit tout rejeter parce que vous ne voulez pas tel, parce que vous ne voulez pas tel. Enfin, sinon, ces mariages risquent d'être dissous. Et quand ça s'est dissous, là, c'est encore plus grave. C'est une crise généralisée dans les pays. Ça sera une catastrophe. Donc, à mon avis, on doit féliciter certaines choses, bien que les plus grands points n'ont pas été touchés. C'est le cas, par exemple, même si les 100 jours, les travaux des 100 jours ont été lancés, le cas, par exemple, de chez moi au Maniema, où on a ciblé la route nationale numéro 31, reliant Kasongo vers Bukavu. Je me dis, les délais, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, même pas 50 kilomètres remblayés en terre battue. Donc, vous voyez c'est ce que ça fait à un certain moment. Apparemment, les chefs de l'État ont lancé des travaux, mais ils n'avaient pas fait un suivi qu'il fallait. Donc, il y a des petits problèmes que les chefs de l'État doivent pouvoir élever pendant les 5 ans qui lui restent au lieu qu'on fasse d'autres critiques pour les 100 jours.
Dexon Hassani, mais si en un mot on devait retenir un seul indicateur dans votre analyse, on peut dire que c'est un bilan positif ou négatif quand vous mettez en balance tout ce que vous venez de vous évoquer?
Bon, je ne dirais pas positif, d'autant plus qu'il y a quelque chose encore d'important qui manque, c'est notamment la nomination
du gouvernement, du premier ministre. Donc pour vous, pour vous, en un mot, c'est un bilan négatif?
Bon, je dirais oui, mais félicitons quand même ce qui est déjà fait.
Merci Dexon Hassani. Nous reviendrons à vous, Freddy Chiyoyo, rédacteur en chef à la télévision RTVS1 et correspondant de la télévision Africa News. Pas de gouvernement, vous venez d'entendre la conclusion de Dexon Hassani. Pas de gouvernement depuis plus de 3 mois. Est-ce que ce n'est pas un peu un immense manquement?
Mais je pense que notre ami confond un peu les choses. Dire que parce qu'il n'y a pas de gouvernement, le bilan serait négatif. En tout cas, je pense que c'est faux, de la mesure où nous avons une logique constitutionnelle à observer dans ce pays. Rappelez-vous, en 2011, Kabila, prête serment le 20 décembre, nous avons eu le gouvernement Tata 1 investi à l'Assemblée le 12 mai. Parce que aujourd'hui, la mise de l'investiture d'un gouvernement est tributaire à la mise en place ou à l'installation effective et totale de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'Assemblée est composée de 6 organes, n'a que 2. à savoir l'assemblée plénière et le bureau. On n'a pas encore le groupe parlementaire, on n'a pas encore le commission permanente, on n'a pas encore le comité de suivi et ensemble on n'a pas la conférence de président. Celle-ci a la mission d'élaborer un calendrier des matières ou un projet de connaissance des matières à soumettre à l'assentiment de la plénière. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire venir le gouvernement pour s'investir. Imaginez qu'au lendemain du 24 de janvier 2019, Tshisekedi, le même premier ministre, il allait faire quoi? Si c'est pas logé au Campus Hotel en train de prendre le champagne avec sa famille, mais jamais n'entrait en exercice de ses fonctions. Tshibala continuerait toujours à travailler aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la faute de Tshisekedi, mais nous, ici, Tshisekedi est en face des conditions fixées par une logique constitutionnelle. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on n'est pas en France où vous avez Macron le matin, le lendemain vous avez monsieur, comment c'est le premier ministre français, monsieur
Edgar.
Monsieur Edgar. Mmh. Non, donc c'est très différent. Là, il faut éclairer l'opinion parce que j'ai comme le processus, même les députés, même un candidat malheureux à la présidentielle, ancien député, ignore les coutumes parlementaires en la matière. Parce que même si on nomme premier ministre demain, il va faire quoi? Puisqu'il faut avoir l'investiture de l'Assemblée avant d'entrer en fonction. Il fera quoi? Donc, dire que à cause de cela, les blés négatifs, c'est être de mauvaise foi. On méconnaît notre coutume constitutionnelle.
Mmh. Frédéric Thiriot, mais oui. Pourquoi tous les communicateurs, les communicants de la famille présidentielle ou du camp qui est au régime en ce moment ne mettent pas en avant ces éléments-là pour expliquer au peuple le retard ou encore l'absence du gouvernement pour le moment?
Mais ne me poussez pas à mettre sur le place publique les choses internes à la coalition
FCCH.
Mais je pense que je note comme tout le monde qu'il y a un peu de faiblesse au niveau de la communication. On ne communique pas. Par rapport au même 100 jours ici, j'allais parler au directeur il y a deux semaines, j'ai parlé avec lui. On ne communique pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ça demande pas des millions pour communiquer. Mais je sens qu'il y a une défaillance, il y a une faiblesse dans la communication. On ne demande pas de faire du Jean-Pierre Kassamba sur la visibilité de quoi. Non, mais le fait que informer le pays, faire voir aux gens ce qui se passe. Puisque Tshisekedi a beaucoup fait en 3 mois ce qu'Abla a fait en 18 ans. Ça, il faut que je le dise.
Merci, oui. Freddy Tioyo. Oui. Yves Bouya, journaliste, rédacteur sur le site d'information CNews. Est-ce que ceux qui soutiennent que Félix Tshisekedi a fait énormément de choses, un peu comme venait de chuter tout à l'heure Freddy Tioyo, bien évidemment, tout le monde met en avant l'absence du gouvernement, mais ça a l'air de paraître comme le seul... La seule épine sous le pied de Félix Tshisekedi. On voit par exemple que sur le plan institutionnel, une grande partie ou presque toute, en mettant de côté ce que relevait Tshisekedi tout à l'heure, un certain nombre d'institutions sont quand même déjà en place, les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales,
les gouverneurs,
le Sénat, l'Assemblée nationale. C'est quand même beaucoup de choses qui ont déjà été établies, non?
Oui, mais écoutez, j'entends parler Tshioyo qui dit que il veut un peu nous ramener au schéma Kabila quand Kabila a été élu, investi le 20 décembre 2011. Nous avons eu le gouvernement Matata au mois de mai et je pense ça fait 6 mois après. Donc je pense que nous avons peut-être une alternance, il faut le dire. Pourquoi toujours revenir aux vieilles coutumes de Kabila qui prenait de la longueur pour prendre dans ses décisions? Non, par exemple.
C'est la Constitution.
Oui, mais la Constitution ne dit pas qu'il faut prendre 6 mois pour installer un gouvernement. La Constitution ne dit pas que il faut prendre.
Répondez un peu à son interrogation. Oui, oui, ça... Si jamais le Premier ministre avait été nommé en quelques jours. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fait tous les 2 mois et demi?
Non, moi, je pense que j'ai parlé de l'alternance. Mmh. Les choses devaient être faites de manière programmée. Mmh. Tu prêtes serment, tu es président de la République, tu prêtes serment, tu te fixes un chronogramme, tu dis que telle date on aura les élections de l'Assemblée nationale.
C'est pas lui qui fixe les dates, hein. C'est la CENI, l'organe.
Mais toi, tu es président, un président travaille sur base d'un programme.
Donc vous le poussez à interférer.
Travaille sur base d'un programme. Alors, quand il faut maintenant aujourd'hui parler du premier ministre. Moi, je sais, à mon humble avis, selon mes informations, il y a un vrai problème de casting, des personnes, s'il faut le dire. Donc, bien qu'on attendait, c'est que Tchio dit la raison, il fallait peut-être installer, attendre l'installation du bureau défini de l'Assemblée nationale, mais on sait où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. D'abord, il y a un problème de casting, il y a des noms qui ont fait polémique, ça on le sait, et je pense que ça continue jusqu'à présent. Au moment où je vous parle, je pense que d'ici demain, après-demain, je crois ce soir ou le lendemain, il y aura les DIRCAP qui seront en concertation avec les DIRCAP du président qui seront en concertation avec certains membres du FCC pour en discuter. Donc, tantôt, c'était Yuma qui faisait problème, tantôt, aujourd'hui, c'est Mbuyu, tantôt, donc, c'est un problème de casting. Alors, on attend, on voit, mais je pense que quand Mabunda parlait, la présidente de l'Assemblée nationale a dit elle a soif, elle a envie qu'aujourd'hui que le gouvernement soit installé. Je pense que c'est devenu vraiment aujourd'hui une pression. Il faut que ce gouvernement soit vraiment installé pour que les choses évoluent, parce que là nous constatons il y a un grand dysfonctionnement, les pays est paralysé, les pays est vraiment bloqué.
Quant au bilan, en un mot, Yves Bouya, un peu la question que j'ai posée à Dexon Hassan tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le bilan positif?
Non, négatif? Le bilan, laissez-moi. Pour moi, à mon humble avis, je pense que M. Félix, s'il faut les juger sur base de son bilan, sur base de son bilan qu'il nous a présenté à la place échangeur sur ces 100 jours, moi j'estime que c'est un bilan complètement négatif. C'est un bilan qui n'a rien apporté dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Ça n'a rien apporté.
Bon, le gouvernement s'occupe du quotidien de la mise en place du programme.
Dans son programme d'action, le président avait parlé de l'amélioration. C'est pas venu de moi. C'est dans son speech que j'avais copieusement suivi. Aujourd'hui, les gens parlent des routes. Oh, des routes, on a réhabilité. Des routes, moi, je sais pas. Mais c'est quelle route? On nous parle de quelle route? On doit voir encore ces routes-là.
Donc, pour vous, la mise en place des assemblées provinciales, l'installation du Sénat, de l'Assemblée nationale.
Ça, c'est un programme déjà l'élection élaboré, des gouverneurs. Un programme constitutionnel. Mais moi, je me bats
au programme. La décrispation du climat politique.
On a vu certains opposants qui sont sortis, mais il y a d'autres opposants qui sont des dossiers sensibles, qui sont toujours détenus en prison.
Merci Yves Bouya, quittons la politique, c'est un sujet passionnant, important, nous y reviendrons probablement dans nos éditions à venir. Allons plutôt sur un autre sujet, le deuxième, et abordons une question sérieuse de santé publique. Déclarée le 1er août 2018 au Nord Kivu et en Ituri, la maladie à virus Ebola a franchi le cap de 1000 morts. Le 3 mai dernier, le ministre de la Santé a annoncé que c'est la deuxième épidémie la plus grave dans l'histoire du virus. Préoccupé par cette situation, une délégation des députés du Nord Kivu a rencontré lundi la présidente de l'Assemblée nationale. Objectif, obtenir l'implication de la Chambre basse dans la lutte contre cette maladie, notamment les détails avec Kélin Kouté.
Le foyer principal de l'épidémie dans la ville de Butembo est également à l'origine de la résurgence de l'épidémie dans les zones voisines de Kaina, Biena, Masirika, Vuozi et Kalunguta. Alors que chacune de ces zones avait réussi à passer plus de 21 jours sans nouveau cas confirmé entre février et mars 2019, rappelle le ministère de la Santé. L'épidémie d'Ebola avait repris dans ces zones après que des personnes contaminées originaires de Butembo ou de Katwa avait fouillé les équipes de la riposte pour se réfugier chez des proches vivant dans ces zones voisines. La présidente de l'Assemblée nationale a indiqué lundi qu'elle est déterminée à impliquer son institution dans la recherche des solutions sur la lutte contre l'insécurité et la maladie à virus Ebola. Les députés nationaux des territoires touchés ont demandé la programmation d'un débat en plénière sur les rapports de la mission parlementaire effectués sur terrain avant la fin de la législature passée. Notez qu'il y a eu jusqu'ici 422 personnes guéries et 270 cas suspects en cours d'investigation.
Dexon Hassani, la maladie à virus Ebola au Nord Kivu, à Ituri, depuis plusieurs mois, et on n'est pas apparemment près de résoudre la situation tout de suite. Vous n'êtes pas dans les régions concernées, mais vous êtes dans la partie du pays qui est assez proche des régions concernées. Qu'est-ce que vous pensez de cette maladie qui est devenue une espèce de feuilleton maintenant?
Nous-mêmes, d'ailleurs, au Maniema, nous sommes en train de craindre que ça nous arrive aussi, d'autant plus que Maniema, Nord Kivu, ce n'est qu'un pas. En fait, Donna, je voudrais souligner quelque chose. Moi, personnellement, les constats que je fais dans cette de cette maladie, c'est que il y aurait une main derrière. Donc, il y aurait à boire et à manger. Pourquoi je le dis? Comment est-ce que notre gouvernement a réussi à anéantir cette maladie pendant presque 8 ou 9 fois? Mais c'est seulement cette épidémie, l'épidémie de cette fois-ci, qui ne trouve pas de solution. Donc, apparemment, moi, je trouve que c'est un commerce qui se fait déjà derrière cette maladie. Mais aussi, ça revient du côté de la population. Lorsqu'on vous dit qu'il faut prendre des mesures de précaution, il faut laver les mains avant de manger ou après la sortie de la toilette, il faut faire ça. Ce sont des petites mesures d'hygiène que nous devons mettre en pratique à tout moment pour que nous puissions nous épargner de cette maladie-là. Je suis tombé sur un document d'ailleurs, avec l'incursion de Mai Mai, je crois pas plus tard hier, à Butembo. Apparemment, ils ont déposé un document et sur lequel, c'était un texte, sur lequel ils ont dit qu'ils doivent chasser toutes les équipes de riposte de cette épidémie. Donc, vous voyez quelles sont les conséquences qui peuvent en découler. Si le gouvernement a trouvé des vrais remèdes pour les autres épidémies, il faut les mettre à la place publique pour cette autre épidémie au lieu d'en faire un commerce derrière. Moi, je pense, à mon avis, que ça demande l'implication de tout le monde. Que le gouvernement prenne ses responsabilités et que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire ou ce qu'il a toujours fait pour les autres épidémies. Et nous, la population, nous devons prendre conscience et savoir ce que nous devons faire réellement pour éviter cette épidémie. Parce que la barre des 1000 morts, mon frère, Donna, en tout cas, c'est vraiment une extrapolation. Qui sait que demain encore ou après-demain, ça va continuer à tuer d'autres personnes. Donc, à mon avis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, nous devons prendre conscience, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de la population. Certainement, je peux féliciter la position de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Mabound. Si elle prend cette décision, et je suis sûr que ça ira, parce qu'il y aura peut-être des interpellations des ministres de la Santé, il y aura interpellations des autres couches ou des autres ministères qui sont concernés quant à ça. Mais le plus grand problème, c'est que la conscience doit travailler, que ce soit de leur côté, les politiques, que ce soit de notre côté, nos populations. Voilà ce que je peux apporter comme contribution.
Merci Dexon Hassani. Freddy Chioyo, la crise Ebola au Nord Kivu et à Ituri préoccupe beaucoup. Vous pensez que c'est à cause d'un manque d'efficacité des équipes de riposte ou il y a des interférences politiques, financières et autres?
Je pense que il y a beaucoup de tirs de ficelle dans cette histoire d'Ebola. Les équipes de riposte sont motivés pour administrer, puisque d'après le rapport que j'ai en ma possession, on a administré au moins 70 000 doses dans ces contrées Nord Kivu et Ituri, mais on a du mal à accéder dans le site où il y a des bandes armées, où on ne sait pas accéder parce que il y a des conflits au niveau avec des ADF, NALU, des milices, tout ça. Apparemment, j'ai comme l'impression que il y a des fils de ce pays, je ne voudrais pas les indexer ici, mais ils se connaissent là où ils sont, c'est là où j'appuie le secrétaire de chef de l'État lors de son passage à Bénin, que quiconque sera cité dans l'entretien de ces groupes armés, en tout cas, sera mis aux arrêts. Donc j'ai comme l'impression que cette affaire est entretenue par un groupe d'individus qui veulent qu'à tout moment qu'il y ait des arrois dans cette partie du pays pour faire leur richesse.
Alors, tout à l'heure, vous félicitiez le bilan du président Félix Tshisekedi,
ouais.
Mais au lieu de se focaliser peut-être sur les tractations de la mise en place du gouvernement, ou même encore de l'anéantissement des groupes armés par leurs actions militaires, est-ce que Ebola n'est pas plus urgent que le gouvernement et même que la mise à mort des groupes armés qui pourraient être traités un peu plus tard.
Je pense que le volet sécuritaire est parmi les principaux chantiers de l'actuel chef de l'État. La preuve, il en vient, il était dans la partie orientale de notre pays, il a parlé, il a convié avec la population, et il a donné le mot d'ordre.
À quoi ça servirait de traquer les groupes armés si après les militaires meurent tous d'Ebola?
Malheureusement. C'est tout ce que nous déplorons aujourd'hui, malheureusement, on déplore cela. Mais je pense qu'il faut commencer d'abord à la source du problème.
Est-ce qu'on ne devait pas d'abord commencer par traiter Ebola et ensuite donner aux militaires les équipements pour traquer les groupes armés?
Il y a des équipes qui sont déployées sur le terrain pour administrer les doses contre la fièvre d'Ebola. Malheureusement,
on est arrivé à la barre de mille morts malgré ça.
Ces agents de la réponse ont du mal à accéder dans des lieux où se trouvent des gens qui souffrent de cet Ebola. Donc aujourd'hui, il faut d'abord commencer par déterrer ces forces négatives, ces bandes armées qui sèment la terreur dans cette partie du pays.
Donc, est-ce que la guerre contre les groupes armés n'est pas juste un prétexte? Pourquoi n'amène-t-on pas les malades d'Ebola vers un endroit bien précis, isolé des autres, et on les traiterait? On n'aurait pas besoin d'aller les chercher.
Je ne veux pas ce père-là de famille qui acceptait de voir ses enfants mourir. Bon, pour quel intérêt, pour quelle finalité accepter de voir ses concitoyens mourir d'Ebola au nom des intérêts mesquins? Non. Aujourd'hui, je pense que Ebola, Tshisekedi l'a hérité. C'est depuis le mois d'août, vous l'avez dans votre sommaire, que cela a ressurgi. Aujourd'hui, il faut trouver une thérapie pour endiguer. Malheureusement, pour endiguer ce fléau, il y a des gens qui s'interposent pour qu'on puisse assainir le territoire. Donc aujourd'hui, d'abord, il faut commencer par pacifier la partie orientale en mettant hors d'état de nuire les forces négatives, notamment les ADF Nalu, les milices tenues par certains cadres de la Mouka, et faire en sorte qu'on puisse déblayer le terrain afin qu'on puisse faire parvenir les équipes de la Réforce contre la fièvre Ebola dans le territoire.
Très brièvement, oui. Ça fait 8 mois que des tentatives, des stratégies sont mises en place.
Oui.
Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'exécute pas notamment la proposition que vous venez de faire?
Bon, là, je risque de dire, comme avait dit Chimanga, que j'invite. Mais je pense qu'on doit trouver des solutions adéquates à cela avec la nouvelle équipe qui sera mise en place. Je pense et je souhaite qu'on mette à la tête de la santé quelqu'un de compétent. Pourquoi pas le docteur Muyembe de l'INRB?
Voilà.
Les mieux placés.
Les personnes compétentes vous ont entendu. Yves Bouya. C'est tous les jours qu'on parle de ce sujet d'Ebola et généralement les solutions sont les mêmes. Il faut d'abord régler la question sécuritaire, c'est votre avis?
Oui, mais Donald, vous avez vu comment est-ce que Freddy Tshiyoyo a balbutié pour répondre à votre question concernant l'aspect sécuritaire. Alors, il a complètement balbutié. Alors moi, je vais rester pragmatique. J'ai suivi de près la campagne de l'actuel président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il avait dit dans ses programmes d'urgence? Je vais déplacer l'état-major. Si c'était fait, on n'allait pas parler des proches d'insécurité. Je vais déplacer l'état-major. Dans mon programme d'urgence, je vais déplacer l'état-major de Kinshasa pour Beni, Butembo, pour sécuriser un peu cette partie.
Bon, il n'avait pas dit je vais le faire dans les trois premiers mois.
Mais non.
Il a 4 ans
C'était parmi ses programmes d'urgence. Quand on dit un programme d'urgence, c'était parmi ses programmes d'urgence. C'était parmi ses programmes d'urgence. C'était une promesse qu'il avait faite aux Congolais. Et je pense que sur base de ça, de cela, qu'il a été élu, s'il faut le dire. Mais on comprend aujourd'hui, vous voyez, nous avons du mal aujourd'hui, à 8 mois, 9 mois, nous avons, le gouvernement congolais a du mal à éradiquer cette épidémie à virus Ebola, malgré la contribution de partenaires extérieurs de la RDC. Mais aujourd'hui, le pays fait face à du mal. On a atteint les caps des 1000 morts, c'est quand même trop. Alors, quand il lui dit qu'il y a tireur des ficelles, non, il n'y a pas tireur des ficelles. C'est qu'il y a une incapacité d'aujourd'hui.
Donc pour vous, le président de la République déplacerait l'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo vers le secteur du virus.
Mais parce,
le problème serait
parce qu'il y a insécurité aujourd'hui. Lui-même, là, il a été là. Lui-même a été à Beni.
Que pensez-vous des commentaires qui, eux, soutiennent plutôt qu'il y a un complot, qu'il y a un commerce qui est désormais établi
sur je peux pas me fier à des rumeurs, mais moi je reste sur des faits. Je constate qu'aujourd'hui l'insécurité bat son plein. Aujourd'hui les personnels des ministères de la santé et autres partenaires sont dans l'incapacité d'aller administrer la dose, les produits pour lutter contre Ebola à nos compatriotes qui souffrent de ces virus là cela est dû à un problème d'insécurité. Alors c'est là où je me réfère aujourd'hui aux propos du président, aux promesses du président de la République qui avait dit en son temps, aujourd'hui ma priorité, moi Félix Tshisekedi sera à l'Est. Mais où est cette priorité aujourd'hui? Aujourd'hui l'insécurité... Mais en termes de résultats?
Il y a pas de résultats.
En termes de résultats, il y a quoi? Je veux revenir dans mon temps d'antenne. Moi, j'ai été au Katanga quand le président de la République était au Katanga. J'étais pour couvrir la campagne du gouverneur. Les présidents de la République, les services de sécurité, les notables katangais, ils discutent avec eux. Le lendemain, quand le président prend son vol pour Goma, dans la nuit, à l'avant-veille, avant son déplacement, on tue des gens. Président sera à Goma. La même promesse qu'il fait, que non, je vais installer votre sécurité, c'est ma passion, c'est mon envie, c'est ma préoccupation. On ne trouve rien. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un très sérieux problème.
Comment résoudre ce problème d'Ebola?
En fait, le problème d'Ebola, c'est un problème de volonté. Et si on y met la volonté, je pense que nous allons arriver. Au-delà de tout ce qui sont, de tout ce qui est rumeur, de tout ce qui s'est dit, s'il y a effectivement, comme Thio l'a dit, des zones d'ombre, il y a des tireurs de ficelles, je pense que s'il faut d'abord identifier cela, et si on y met de la volonté, nous allons y parvenir.
Merci Yves Bouillard. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais pour bien conclure le tout, votre mot de la fin, que peut-on retenir de nos deux sujets de ce soir?
Moi je vais un peu rester un peu dans les faits du bilan du président de la République sur 100 jours. Moi j'ai en possession de certaines informations, c'est vraiment négatif. Et vous savez, il y a 500 millions qui a été sorti pour ces programmes d'action du gouvernement. Cet argent sort du trésor public en procédure d'urgence sans passer par la chaîne des dépenses. Vous imaginez? Et aujourd'hui, quand on voit sur terrain, rien n'a été fait, on se pose la question, où est passé cet argent?
Merci Yves Bouillard. Freddy Tioyo, votre conclusion?
Notre ami arbore une posture des gens qui ne voient que du noir, même quand c'est blanc.
C'est mon point de vue.
Oui, je vous le conseille, vous avez raison, c'est votre droit. Mais je pense que dire qu'en 100 jours, Tshisekedi n'a rien fait relève de très mauvaise foi, une mauvaise foi inspirée par la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, Diom Dongala a recouvré sa liberté, Diongo est dehors, Katoum a son passeport, Mouyamo est libre, et tout ça c'est rien. Donc, le colère en train de dire ça, tout ça c'est rien.
Merci.
Donc là, en tout cas, c'est mauvaise foi. Félix est sur les bonnes traces et c'est un début qui promet.
Merci, Félix Tioyo. Dexon Assani, le débat se chauffe toujours à la fin. Sache que, en quelques mots, votre mot de la fin.
L'amour va s'évider comme les chapeaux aujourd'hui.
Je pense que je dois dire.
Merci, chers amis. Merci, chers amis. Écoutons la conclusion, Dexon.
Pour le premier sujet, le chef de l'État doit nommer le plus rapidement possible un premier ministre, parce que nommer un premier ministre, ça ne doit pas être un secret de polichinelle, laisser les gens chaque jour dans une sorte d'allergie où on doit, c'est comme si on attendait le Messie qui doit descendre. Non, un premier ministre, c'est quelqu'un qui est un servant de la population, un domestique de la population. La population a droit de l'avoir par tous les moyens.
Merci.
Et pour Ebola, je répète bien, c'est encore une question de conscience du côté du gouvernement, que ce soit même du côté de la population. Donc, l'aspect sécuritaire, certainement, nous sommes en train de recommander que le chef de l'État mette en pratique ses promesses de campagne électorale, notamment
merci.
Déplacer l'État-major au niveau des Nord-Kiv.
Merci Dexon Assani, merci à tous les trois. Dieudonné Nyangasa, Kelin Kouté, Pelé Kipelamondo m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.